Bonsoir. Le mouvement AFCM 23 consolide de plus en plus son administration parallèle dans la partie est de la RDC après près de 9 mois d'occupation des chefs-lieux du nord et sud Kivu. Et cela se fait en violation de toute attente de l'accord de Doha qui, selon certains acteurs de la société civile, semble être au point mort. Ces acteurs déplorent le fait que la rébellion, après avoir installé les gouvernements provinciaux du nord et sud Kivu, a procédé à la mise en place des chefs coutumiers, passant par la police, les magistrats et les services publics. Une administration structurée en un petit état, selon plusieurs observateurs, dans les zones que cette rébellion occupe. Que pensez-vous de la mise en place d'une administration parallèle par la rébellion de la FCM 23? Nous en parlons dans l'émission de ce soir avec Jean-Baptiste Mundo Kasekwa. Il est premier vice-président du Parti politique Engagement citoyen pour le développement SID en sigle, parti membre de la coalition Lamouka. Jean-Baptiste Mundo Kasekwa, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Grégoire Mirindi est aussi avec nous dans ce studio de Radio Okapi, député national honoraire. Il est président du parti politique dénommé Juste Patriote pour la République, JPR en sigle, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Grégoire Mirindi, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste, merci pour l'invitation.
Et Alidor Tshibanda, docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale, UPEN. Il s'intéresse à l'État et à la démocratie. Alidor Tshibanda, bonsoir.
Bonsoir, madame Toline. Bonsoir à mes co-débatteurs.
À Bukavu, Sud Kivu, vous nous suivez sous la 95.3. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur Via Civique, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, après près de 9 mois d'occupation des chefs-lieux du nord et du sud de Kivu, le mouvement AFCM 23 consolide de plus en plus son administration parallèle dans la partie est de la RDC, ce en violation de toute attente de l'accord de Doha qui, selon plusieurs acteurs semblent être au point mort. Le gouvernement provincial du Nord-Est Kivu jusqu'au chef coutumier, passant par la police, les magistrats et les services publics sont installés, déplorent ces sources. Les détails avec vous, Ronelli Timbonera.
Il s'agit d'une autre administration structurée à la manière d'un petit état dans les zones occupées que le mouvement rebelle AFCM 23 vient d'installer au cours des 9 derniers mois d'occupation de certaines zones de province du Nord Kivu et du Sud Kivu, déplorent plusieurs observateurs. Au niveau de l'exécutif, disent-ils, le gouverneur, maire, bourgmestre, administrateur de territoire et leurs subalternes sont déjà installés. S'agissant du pouvoir coutumier, presque tous les chefs de chefferie, groupements, secteurs en déplacement ont été quasiment remplacés par de nouveaux animateurs fidèles au mouvement rebelle. Concernant la défense, de nouvelles unités de la police, des milliers de soldats nouvellement recrutés et formés sont redéployés en renfort sur les lignes de front et la sécurité dans les entités administratives au sein de la zone occupée. Des centaines de magistrats civils et des militaires ont déjà été recrutés, sans parler des cadres des services et agences publiques et de l'administration fiscale constamment renforcée, traduisant la volonté du mouvement rebelle d'imposer ses propres règles dans l'est de la RDC, estime ses sources. Ce qui pour elle complique non seulement le travail et l'accès de nombreux acteurs humanitaires et ceux de la société civile dans la région, mais révèle par ailleurs un peu plus les ambitions du mouvement rebelle dans le jeu du pouvoir dans l'est du pays. Alors que l'accord de Doha semble être au point mort, cette nouvelle configuration de l'administration parallèle, imposée par la rébellion AFCM 23 dans l'est de la RDC, amenuise les espoirs de paix pour les populations de province du Nord et du Sud Kivu.
Merci Ronelli Inti Bonera pour ce reportage. Jean-Baptiste Mundo Kasekwa, vous êtes premier vice-président du Parti politique Engagement citoyen pour le développement SID. En sigle, c'est un parti membre de la coalition Lamouka. Comment vous analysez la consolidation de cette administration parallèle avec l'installation des chefs coutumiers, la police, les magistrats, les services publics par la FCM 23 depuis qui vont occuper certaines localités, chefs-lieux du Nord et Sud Kivu. Est-ce que, selon vous, c'est la constitution d'un petit État?
Oui, il est clair que l'FCM 23 exerce tous les attributs étatiques sur la zone sous son contrôle. Il ne lui manque que la prérogative de frapper la monnaie et mettre une nouvelle monnaie. Mais l'AFC a mis en place une armée, une police. Bientôt, si nos informations sont bonnes, d'ici le 15 octobre, l'ANC compte annoncer la rentrée judiciaire, c'est-à-dire lancer ouvertement le fonctionnement des cours et tribunaux dans ces zones-là. Et ils ont nommé, comme vous l'avez dit, des chefs coutumiers. Et ce qui est plus grave, par exemple, par le recrutement des futurs magistrats qu'ils ont nommés, eh bien, l'AFCM 23 fait table rase de tout ce qui existait avant. Même des magistrats ayant fait 20 ans de carrière ont été appelés à se soumettre à nouveau à un test. Donc, l'AFCM 23 veut mettre de côté tout ce qui était de l'administration judiciaire antérieure pour recommencer à zéro. Donc, c'est un nouvel État qui est en train de se constituer, et nous étions en train de le dire dans des émissions antérieures, que l'FCM 23 nous mène sur les schémas du Somaliland. Depuis 1991, jusqu'à ce jour, la Somaliland, c'est un proto-État qui ne manque que la reconnaissance internationale. Et nous sommes sur cette voie-là, malheureusement. Et comme vous l'avez si bien dit à l'introduction, malheureusement, Doha nous mène sur un schéma d'entérinement de cette administration autonome, parce que les Congolais ont gardé silence jusqu'à ce jour. Et le gouvernement, l'administration de M. Félix, garde un silence, ne dit rien au peuple congolais. Alors que, comme Boulos l'a dit, les délégués du M23 et de Kinshasa sont à Doha en train de discuter, dit Boulos, sur un texte final. Or, le texte sur base duquel ils sont en train de discuter, c'est un texte qui consacre effectivement cette situation de fait, qui a prévu que on donne, n'est-ce pas, à l'armée M23 le droit de contrôler ces zones pendant 5 ans. C'était ça le draft. Et il est authentique, Kinshasa ne l'a déjà démenti. Le draft de Doha demande que on laisse à ces gouverneurs des provinces nommées par l'AFCM 23 ce qu'ils appellent une gouvernance autonome durant 2 ans. Et donc, on veut nous amener à entériner cette situation de fait. Autre chose, c'est que plus personne ne parle du contenu de la résolution 2773, qui a prévu à son point 2 que l'armée rwandaise devait se retirer immédiatement, à son point 4 que l'ASCM 23 devait se retirer de Bukavu et démanteler toute son administration parallèle. Plus personne, que ce soit à Washington, que ce soit à Doha, dans toutes les chancelleries, depuis le 21 février 2025, où la résolution 2773 a été adoptée, ça fait maintenant 8 mois, aucun autre texte n'est venu pour revenir rappeler les prescrits de cette résolution ou en exiger la mise en œuvre. C'est comme si, dans le mental des chancelleries occidentales, dans le mental même de l'administration Félix, on prend déjà acte du fait que l'AFCM 23 occupe ces zones, qu'il faut faire avec et qu'on veut nous amener à entériner et aller plus loin. C'est là que nous disons, on regarde des actes posés par l'administration Félix, notamment le fait qu'ils acceptent d'établir sur cette question sans rien dire au peuple congolais, le fait que on multiplie les entraves à la décrispation politique. Le fait que on tergiverse pour faciliter l'initiative du pacte social proposé par les évêques et le pasteur à vue d'un dialogue inclusif. Et au détriment du dialogue inclusif, on privilégie ce schéma suicidaire de droit. Pour nous, l'administration Félix est à complicité avec ceux qui sont à Goma, à vue de nous amener vers un schéma de balkanisation que nous n'accepterons jamais.
Grégoire Mirindi, vous êtes aussi député national honoraire, président du parti politique Juste Patriote pour la République, JPR en sigle, c'est un parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce que vous pensez de cette consolidation de l'administration parallèle mise en place par l'AFC-M23 dans le Nord et Sud Kivu, du moins dans les partis que cette rébellion occupe?
Merci madame pour la question. Je voudrais d'entrée de jeu rappeler mon ami qui vient de terminer son exposé que Doha n'est pas le texte principal sur base duquel nous, au niveau de la majorité ou au niveau de l'Union sacrée, nous comptons résoudre les problèmes à l'Est. C'est parmi les axes. Sinon, Doha ne remplace pas les droits internationaux. Doha ne remplace pas la charte internationale des Nations Unies. Doha ne remplace pas la charte qui crée l'organisation de l'unité africaine. Tous les mécanismes de règlement des conflits, tous les mécanismes qui protègent les États, la souveraineté, l'indépendance, sont consignés dans ces instruments. En fait, parce que les négociations, c'est la autre moyen de continuer la guerre. C'est pourquoi nous sommes justement à Doha. Parce qu'on ne peut pas fermer l'oreille, en fait, à la communauté internationale, parce que n'oubliez pas, c'est la communauté internationale qui est en fait l'initiatrice, ou certains États puissants de la communauté internationale qui sont initiateurs de Doha. Alors, comme l'initiative vient de l'extérieur, en quoi le président Félix Tshisekedi, qui répond parce qu'il est acteur de la société internationale, il est acteur comme président de la République démocratique du Congo, membre des Nations Unies, et qui est un membre comme les États-Unis, qui lui dit non, il y a une autre solution qu'on peut tenter, bien que tout est déjà résolu, mais voyons voir si on peut trouver un créneau pour qu'on mette fin à la guerre. Est-ce que Félix a commis l'erreur ou il a renoncé aux instruments juridiques internationaux auxquels notre pays a adhéré? Je crois que non.
Alors, Doha qui semble être au point mort, selon plusieurs acteurs politiques et même de la société civile.
Vous dites d'autres acteurs. Les négociations, ce sont une série, en fait. Les négociations, c'est un processus. Et le processus, c'est plusieurs étapes. Et à chaque étape, il faut peser les pour et les contre. Donc, vous n'allez pas dans les négociations pour dire parce qu'on il a dit que parce qu'on a attendu un draft. Eh bien, il a bien dit, c'est un draft. Un draft ne lit personne. Mais lorsqu'on vous envoie un draft, vous devez l'analyser, vous devez le décortiquer, et de manière à ce que vous puissiez y répondre à connaissance des causes. Donc, pour nous, Doha ou pas Doha, les règles juridiques qui régissent les relations entre les États, les règles juridiques internationales qui protègent les États, les règles qui créent les Nations Unies, l'Union africaine, l'indépendance, la protection de l'intégrité territoriale des États, ce sont ces règles-là, en fait, qui engagent l'État. Et le président Félix n'a pas besoin d'aller au Parlement pour les rappeler aux députés. Parce qu'il n'a pris aucun engagement jusque-là, à Doha, parce que ce n'est pas lui qui a initié Doha. Il participe au Doha, de la même manière au Rwanda, Kagame aussi est arrivé à Doha, parce qu'il a été invité.
Alors, pendant ces temps, l'AFC-M23 consolide son administration parallèle dans la partie est de la RDC en mettant en place des gouvernements provinciaux. On a parlé des magistrats, on a parlé de l'armée, hein, bien sûr, parce qu'on a vu des militaires qui sortent des formations. Est-ce que c'est la constitution d'un petit État, comme j'ai posé la question à l'honorable Jean-Baptiste Okasekwa?
Madame, ne sont pas de la toute première pluie, dernière pluie dans ces pays. Ce n'est pas la première rébellion que ces pays connaissent. On connaît comment ça marche. Et de deux, je voudrais vous dire que dans ces débats, nous devons d'abord nous mettre d'accord sur de quoi nous parlons. Parce que ceux qui sont à Goma, eux-mêmes, ils ne s'appellent pas gouvernement. Eux-mêmes se nomment mouvement. Ils se nomment alliance. Ils n'ont jamais utilisé le terme gouvernement parce qu'effectivement, ils ne sont pas un gouvernement. Mais le gouvernement sous les aisselles duquel ils agissent, c'est ce gouvernement-là que nous voyons. Mais nous ne voyons pas ceux qui sont à Goma. Et ce qui se passe à Goma, c'est sous les labels de l'État qui les a envoyés. Cet État-là, c'est bien connu sur le Rwanda. Tous les rapports l'attestent des Nations Unies. Donc il n'y a pas à chercher de midi à 14h et de nous dire qu'il y a ceux qui sont à tout ça, tout ça. La situation qui est à Goma aujourd'hui, c'est juste une usurpation des fonctions. Il ne s'agit pas d'une usurpation de pouvoir. C'est une usurpation des fonctions. Et lorsque nous décortiquons le régime juridique de l'usurpation des fonctions, la conséquence des actes qu'un usurpateur de fonction pose, non seulement que ces actes sont nuls, mais ces actes-là sont inexistants.
Il n'y a pas à s'inquiéter.
Il n'y a pas à s'inquiéter. Ces actes sont inexistants. Pour le présent et pour le futur. On ne peut même pas les évoquer ultérieurement. Je vais vous dire pourquoi ils s'empressent à prendre tous ces actes. Mm-hmm. C'est tout simplement parce qu'ils veulent prendre San City comme modèle, comme exemple. Comme en San City, on s'était mis d'accord que tous les actes posés par les différentes rébellions à l'époque, dès que San City, on continue les débats, ça fait partie de textes reconnus par le gouvernement central. C'est pourquoi ils s'agitent. En fait, quel est le problème? Ils veulent avoir des gens, des magistrats, des policiers, qu'ils veulent en fait imposer, je ne sais pas par quel moyen, au gouvernement congolais. Si notre pays a une difficulté aujourd'hui, si nous sommes en difficulté aujourd'hui, il faut qu'on les reconnaisse. C'est parce qu'avec le RCD Rwanda, le RCD Goma, les M23, tout le monde, grâce à la résolution de San City, est venu avec des groupes de gens, des militaires, des policiers. On est venu superposer ça au gouvernement congolais alors que les moyens ne suivaient pas. Conséquence, et au niveau de l'armée, c'est parmi les techniques qu'on a mis en place pour arriver à ce genre de situation. Nous rendre ingouvernables et détruire notre système de défense. Et donc, ils veulent encore une fois revenir avec les gens qui vont exiger, je ne sais pas, qu'on les intègre dans l'armée, dans la magistrature, dans la police. Et les chefs coutumiers, un chef coutumier, on ne le crée pas. Là, ils peuvent décréter comme ils veulent, mais on ne crée pas un chef de coutumier. On sait comment les chefs coutumiers se créent chez nous, comment ils sont. L'État reconnaît les chefs de coutumiers, ne les reconnaît pas, il ne les crée pas. Et donc, qu'on prenne des actes pour les reconnaître, bon...
Et okay. La population sur place qui s'inquiète parce qu'on a reçu quand même beaucoup de réactions hein, de la population de Goma et Bukavu par rapport à cette administration parallèle. Cette population n'a pas à s'inquiéter selon vous, Mirindi.
Ce n'est pas les actes que les occupants de Goma posent, des actes administratifs qui inquiètent. Ce qui inquiète, c'est leur présence sur le territoire congolais. S'ils quittent notre territoire, tous les problèmes sont résolus. Donc, on ne doit pas se mettre aux conséquences alors que les causes sont là. Et les causes sont telles que le Rwanda est au Congo. Et nous faisons en sorte que le Rwanda quitte le Congo. Il n'y a personne qui est allé agresser le Rwanda. Il n'y a personne qui est allé agresser un militaire rwandais ou un policier rwandais. Donc, nous sommes des voisins. Les uns et les autres doivent respecter les limites qu'ils ont héritées, n'est-ce pas, de la colonisation, un peu barre. Donc, il n'y a pas moyen de dire que les actes sont des... Je vous dis, pour nous, en matière d'usurpation...
C'est insignifiant, vous minimisez.
Pardon?
Vous minimisez ces actes administratifs.
Ce n'est pas moi. Toutes les théories du monde, ils vont vous dire que tous ceux qui usurpent les fonctions, les actes qu'ils posent, sont des actes inexistants.
Merci.
Et ils ne peuvent jamais être régularisés.
Merci, on vous garde encore dans cette émission, Grégoire Mirindi, Alidor Subanda. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale, l'UPEN. Vous vous intéressez à l'État et à la démocratie. Qu'est-ce que vous pensez, ou quelle est votre analyse, sur la mise en place de cette administration parallèle par la rébellion de l'FC M23?
Merci beaucoup, Madame Kelly. Je constate déjà que nous devons au préalable nous mettre d'accord sur ce qu'on attend par rebelle.
avant d'apprécier la nature juridique des actes qu'il pose. Un rebelle, c'est qui? C'est toute personne qui décide de se remettre en marge de l'ordre établi. L'ordre juridique, et ils ont toujours la prétention, ou il a toujours la prétention de croire qu'il pourrait mieux les défendre que les institutions établies. Et à cet effet, même si dans la société il est contesté, de par sa volonté de croire que les actes qu'il va poser pourront le pousser à porter un changement substantiel dans le fonctionnement qu'il prétend décrier, il peut se permettre de tout, même de ce que les autres sont en train de poser. Mais quand vous lisez très bien les propos qui sont tenus par tous ces rebelles, ils vous diront, notamment ceux de l'ANC, ils vous diront qu'ils s'inscrivent dans la constitution de la République, c'est que les actes qu'ils posent devraient normalement respecter cette constitution. Dès lors qu'ils marchent à l'encontre de la constitution, ça pourrait nous inquiéter et nous se poser plusieurs questions par rapport à tout ce que les gens racontent au regard de l'unité du pays. Mais quand cela ne tienne, nous pensons que la réalité, c'est que le pouvoir de Kinshasa ou le gouvernement national ou le gouvernement central a perdu le contrôle de certaines parties des territoires de l'Est, notamment la ville de Goma et quelques... La ville de Goma, Bukavu et quelques territoires qui à l'est de la République. Ce qui fait que l'État doit continuer à fonctionner même entre les mains des rebelles. Parce que l'État, parce qu'ils doivent protéger ces espaces-là et protéger la population qu'ils sont censés avoir dans leur espace de Congo, champ de contrôle. Alors, cela peut nous amener à parler de, du fonctionnaire de paix. Parce que l'État lui-même n'est plus en mesure de contrôler ces espaces-là. Il est de bon aloi qu'il y ait des personnes qui prennent des actes pour assurer la continuité de l'autorité publique. Rebelle soit-il. Mais cela ne leur donne pas le pouvoir parce qu'ils s'inscrivent dans la dynamique constitutionnelle de prendre des mesures qui vont à l'encontre de la Constitution. Notamment la nomination de magistrats. Il y avait des magistrats qu'ils ont trouvé, ils pouvaient continuer avec ces magistrats-là pour s'inscrire dans l'ordre institutionnel établi. Notamment le Conseil supérieur de la magistrature. Et le pouvoir de nomination de magistrats qui est reconnu, ils n'ont ni compétence ni qualité pour pouvoir nommer des magistrats. Donc l'acte qu'ils ont posé, comme venait de le dire le prédécesseur, ne produira aucun effet. Parce qu'il y a des magistrats surtout, toutes les entités ou les structures judiciaires étaient pourvues. Et deuxièmement, ils ne peuvent pas nommer les chefs coutumiers. La loi portant statut, la loi 15/015 du 25 août 2023, ne donne pas pouvoir à une institution publique soit-elle de pouvoir nommer un chef coutumier. Le chef coutumier est investi. Il n'est pas désigné par le pouvoir public, il est désigné conformément aux us et coutumes locales. Et celui qui doit être vesti doit être sur la lignée des successions. Donc on ne peut pas prendre n'importe qui, faire de lui chef coutumier, c'est une violation flagrante. Et ça porte atteinte à la gestion des entités coutumières. Donc c'est une perturbation de l'ordre établi qui ne pourrait pas être acceptée. S'il y a une demande à formuler à leur endroit, c'est de respecter l'autorité coutumière. Parce que notre pays est séculé sur base de ce contrat entre l'État et le pouvoir coutumier. Cela peut nous amener à croire effectivement qu'il y a un processus de transplantation des populations qui est très dangereux pour l'unité et l'intégrité territoriale. Je constate que dans ce qu'il pose comme acte, il ne devait pas aller au-delà des limites prescrites par la loi. Parce qu'il prétend s'inscrire dans l'ordre législatif et constitutionnel établi. Donc, marcher à l'encontre du droit positif, ça devient très tendancieux et ça peut faire croire effectivement que les tendances vers la trahison pour la balkanisation du pays pourrait semble être déjà engagée.
Est-ce que cette situation révèle-t-elle une fragilité structurelle de l'État congolais, Monsieur Alidor Tshibanda, capable de voir un petit État se former en son sein?
Jusque-là, sur le plan international, nous ne dirons pas qu'il y a un État qui se forme, mais les actes qu'il pose prêtent à confusion, et je ne vois pas comment il peut constituer un État avec plusieurs ressortissants de plusieurs provinces. Il y a les Kasaïens, il y a le Katangé, il y a ceux de la province orientale. Ils sont seulement des rebelles qui doivent poser, ils posent des actes pour organiser l'espace qu'il contrôle. Sur le plan international, ça pose encore problème. Mais la reconnaissance de la fragilité de l'État, c'est une réalité. On le dit chaque jour. Nous devons travailler pour construire une puissance. Au lieu de croire aux négociations, aux dialogues qui nous fragilisent davantage. Donc, l'effort qui doit être fourni à Kinshasa, c'est de mobiliser l'effort, mobiliser l'intelligence pour que le pays se dote d'une armée à la hauteur de sa taille.
Alors, merci. Vous êtes très nombreux auditeurs et auditrices de Radio Capi à nous suivre sur nos plateformes digitales, sur la page Facebook de Radio Capi, Hop Tshijabi Mugahukia. Bonjour la Radio Capi, la fréquence de la paix. Nous sommes à Bukavu. On croyait que les rebelles de la FM23 n'arriveraient jamais à Bukavu, car Bunagana, c'est très loin. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont à Bukavu et ils sont bien déterminés, alors que Kinshasa semble être trop passif. Alors, Bianchi Kabuyaya, il faut accepter que Kinshasa a quand même échoué. Le mieux serait de chercher la solution qui pourra aider la population innocente. Les deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent. René Nankasi nous écrit aussi à partir de l'Est, je pense de Bukavu. Le pouvoir de Kinshasa n'arrive pas à mesurer la souffrance que connaît le peuple dans la partie Est du pays. Que M. Mirindi sache que plusieurs entités du territoire national échappent à leur contrôle. On va ouvrir le standard pour écouter aussi ceux qui nous suivent sur la FM et sur la notre site www.radiookapi.net, direction Bukavu. Voilà, ils sont très nombreux, les auditeurs de Bukavu, ce soir, à suivre cette émission. On va écouter cet auditeur de Bukavu qui est déjà en ligne.
Jean-Jacques Bagabo depuis Bukavu. L'administration n'est plus parallèle Dès lors que Kinshasa a fui le milieu, les nouveaux occupants ne peuvent que ça en vue de prouver au monde qu'ils font quelque chose. Le seul prétexte de Kinshasa était que les militaires évitent de faire tuer la population. Nous, bas peuple, restons impuissants vis-à-vis de cette situation et demandons au régime actuel de se déterminer. Soit il a cédé la partie orientale, soit non, et par conséquent mettre toutes les dispositions à sa possession pour rétablir la paix ici chez nous.
Bref, réaction, Jean-Baptiste Oka, c'est quoi?
Oui, la population souffre énormément. Et ce qui est plus révoltant, c'est que au lieu de trouver des mesures qui allègent la souffrance de cette population, comment pouvez-vous comprendre qu'un habitant de Bukavu ou de Goma qui quitte les zones occupées veut venir à Kinshasa, à la capitale de son pays, il prend un document CPGL à Ruzizi 1, à la barrière, et quand il arrive en Gili, il est traqué, il est considéré comme allié au M23 simplement parce qu'il est venu avec un tenant lieu de passeport. Au lieu de faciliter la tâche à ces habitants-là et dire, étant donné que ces populations devraient impérativement disposer de passeports pour ne plus voyager avec des tenants lieux délivrés par RFC M23, mettons un centre de capture de passeports à Bujumbura et que ces habitants-là accèdent facilement aux passeports. Mais même à Kinshasa, on a du mal à trouver un passeport. Ceux qui viennent de Goma, même chose, il a un tenant lieu, les documents CPGL, et même, on va plus louer en Gili ici. Lorsqu'on découvre que dans ton passeport, les gens de la migration M23 ont apposé un cachet dans ton passeport, j'ai eu le témoignage des habitants de Goma qui sont arrêtés. De sorte qu'un habitant de Goma, pour venir à Kinshasa, il est obligé d'abord de prendre ce document AFC M23 à Ruzizi 1, il passe par le Rwanda, il va jusqu'à Bujumbura, Bujumbura, il entre sur Uvira. Arrivé à Uvira, il prend alors un nouveau document tenant lieu, parce qu'à Uvira, c'est l'administration reconnue par Kinshasa. C'est alors qu'il prend un nouveau tenant lieu, il va jusqu'à Bujumbura et venir à Kinshasa. Là, il ne sera pas inquiété. Donc, à cause des comportements épidermiques de l'administration centrale ici, aura la vie extrêmement amère. De la même chose, ceux qui sont à Goma, il faut aller trouver un tenant lieu délivré à Kasindi. C'est celui-là qui sera accepté. Et c'est au nom de ce que l'M23 appelle réciprocité qu'on complique la tâche aux populations. Je me pose la question. L'FCM23 a introduit de nouveaux bulletins scolaires aux élèves qui ont terminé l'année scolaire l'année passée. Je me pose la question de savoir, demain, Kinshasa va également dire, de la même manière que je ne reconnais pas le tenant lieu, je ne reconnais pas non plus tout ce bulletin-là. Donc, on est en train de sacrifier la population des zones occupées. Et d'abord, par exemple, dans le secteur de l'éducation, l'UNESCO devrait intervenir et tous les partenaires, nous devrions nous mobiliser pour dire il y a des questions sensibles, des questions humanitaires, les questions d'éducation, les questions de la circulation des populations ne devaient pas faire l'objet de calculs politiciens ou de mesures épidermiques. Mais il a bien dit, c'est de la responsabilité du gouvernement central. Il est étonnant de constater que la FCM 23 peut défrayer la chronique par de nouveaux recrues qui sortent de Tchanzu et autres, mais le gouvernement central, depuis 4 mois qu'on a ouvert le centre de Nyaleke, a fait de doter la population de Beni d'une police de proximité qui la protège contre les adeptes. Kinshasa a complètement ignoré. Je peux vous dire, mes enquêtes sont vraies. Que ce soit à Ituri, que ce soit à Beni, le chef de l'État ou le gouvernement, le chef du gouvernement, ne prend même pas contact avec les gouverneurs des provinces pour se rendre compte de la situation. C'est comme pour dire pour eux, la situation qui... Mais je suis de là, je suis à Uvira, je communique avec eux. Posez la question, quelle est l'enveloppe des frais transmis au gouverneur à Sud Kivu, au gouverneur de Beni ou de l'Ituri, des gouverneurs qui font face
à des situations humanitaires catastrophiques. Mais entre-temps, on vous apprend que Fonareve, on a détourné 19 millions ici. On vous apprend qu'on a détourné 100 millions. Donc, l'attention de l'administration du pouvoir Union Sacrée est ailleurs. Il est temps que nous exigeons des comptes parce qu'il en va de la vie de nos populations.
Quoi, vous critiquez le gouvernement de Kinshasa. Quelle stratégie concrète vous vous proposez hein, si vous étiez à la place du gouvernement? Que feriez-vous pour démanteler cette administration parallèle?
Nous l'avons dit, Martin Fayoulou a dit depuis longtemps. D'abord, concernant Doha, que Doha devait s'occuper uniquement des modalités de cesser les feux entre les deux belligérants et ensuite des mécanismes de mise en œuvre de la résolution 2773. Pas plus. Deux, Martin Fayoulou est même parti rencontrer Félix pour dire, mon frère, au fur et à mesure que tu persistes à ne pas écouter les porteurs du pacte social qui proposent une voie de négociation entre toutes les parties pour que par un dialogue inclusif, nous soyons en mesure de diluer toutes les prétentions contraires aux intérêts de la nation. Au fur et à mesure que tu persistes à t'opposer au chemin du dialogue, tu fais les jeux de la FCM23. Félix a semblé écouter à recevoir les évêques et pasteurs le 19 juillet. Depuis lors, plus rien. Donc pour nous, il n'y a pas 36 solutions. Comment nous avons réglé la question en 2002? Même la crise des années 60, lorsqu'on a tué Lumumba et tous les autres, comment on a réglé ça? C'est par le dialogue. Que ce soit les différentes crises que nous avons connues, il n'y a pas 36 solutions.
Alors, pour vous, le dialogue reste la solution, Jean-Baptiste Kasekwa.
Félix ne fait pas la guerre, Félix ne veut pas du dialogue. Ça veut dire, la conclusion est simple, il fait les jeux de l'occupant.
On va prendre ce deuxième auditeur qui est en ligne. Il nous appelle depuis Kinshasa.
Boaz Mwamba, depuis la ville de Kinshasa. Le problème est que notre gouvernement n'est pas sérieux avec lui-même. La diplomatie n'apportera aucune solution face à la montée du M23. C'est triste de voir les Congos balkanisés aujourd'hui sous la règne de l'UDPS. Il est temps que Kinshasa convoque un dialogue inclusif, y compris les Congolais qui sont soutenus par les Rwandais, pour endiguer cette avancée du M23. Cette léthargie qu'a le gouvernement de Tshisekedi risque de compromettre non seulement la paix et le développement du pays.
Alors, Grégoire Mihindi, vous avez suivi les différentes réactions des internautes, des auditeurs qui nous suivent. Vous venez de voir ces derniers auditeurs qui rejoint un peu Jean-Baptiste Kasekwa en parlant de dialogue comme solution pour freiner l'avancée du M23.
Merci madame pour la parole, mais je voudrais solliciter une équité.
Vous aurez le même temps, ne vous inquiétez pas, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que les pays 1-1, la constitution est une, les territoires 1-1 et la population ou les peuples 1-1. Le roi Léopold II a occupé ces pays pendant 75 ans, Paul II plus les royaumes de Belgique. Cela n'empêche que les Congolais se soient battus pour recouvrer l'intégrité de leur territoire. Il y a déjà eu plus de 67 dialogues dans ces pays. S'il n'y a que les dialogues qui devaient clôturer ou terminer tous les problèmes que nous avons, on les aurait terminés il y a longtemps. Personne n'est parié qu'après San City, il y aurait encore des rébellions, pas même des rébellions, parce que moi jusque-là, personnellement, il n'y a pas de rébellion.
Et à quoi?
Et c'est ça le problème que nous avons. Il y a occupation, il y a agression. Lorsque nous qualifions mal la situation qui se passe à l'Est, les résultats ou les solutions seraient aussi mauvaises. Parce qu'un rebelle, c'est qui? C'est un enfant de la maison qui se rebelle. Point barre. Contre ses parents.
Ce sont les Congolais qui se sont rebellés contre le pouvoir de Kinshasa.
Tu as vu les Congolais? Moi, j'étais à Goma. Non. Quand Goma est tombé, j'étais là. Tous ces gens qui sont là, personne n'était à Goma. Nanga et non. Ils ne font pas, parce que moi, je quitte ici aujourd'hui, moi aussi, je les rejoins, que vous allez dire que je suis rebelle, parce que tout simplement, je suis à Goma. Tous ceux qui sont à Goma ne sont pas des rebelles. Il faut éviter cette généralisation.
Il n'y a pas de rébellion, il y a l'agression. Nous n'allons pas nier les évidences qui sont déjà établies par la communauté internationale que les Rwandais sont sur place. C'est bien connu. Lorsqu'ils s'étaient battus à Kisangani avec l'Ouganda, c'est la même chose, ils avaient nié. Mais pourquoi on a condamné l'Ouganda? On avait l'Ouganda justement parce que lui était signataire de l'acte qui crée la Cour internationale de la justice. Mais les Rwandais qui n'avaient jamais signé n'ont pas été condamnés. Ce n'est pas pour autant que les Rwandais n'étaient pas là, qu'ils n'étaient pas agresseurs. Donc, la problématique des actes que vous posez. J'ai entendu les collègues passer vers le processus d'obtention. Ce n'est pas l'émission, c'est les effets des actes, je crois. C'est ça l'émission. Quels sont les effets des actes qu'ils posent?
On analyse justement cette administration.
Oui, on analyse, mais lorsqu'on est maintenant dans la traçabilité, sur ce qui se passe sur les frontières, même en temps normal, il y a toujours des soucis au niveau des frontières des États. Rébellion ou pas, par moment, il y a des soucis. Nous tous, nous voyageons, nous connaissons qu'est-ce que c'est. Mais ce que je vais dire à notre collègue, quand vous lisez les éléments qui sont avancés pour le pacte social, pour autant qu'en même temps, ils soutiennent qu'on ne révise pas la Constitution. Je me pose la question, sur base de quel texte nous irons au dialogue, parce que si on s'en tient à la Constitution, tous les mécanismes d'organisation et de fonctionnement des institutions sont déjà constitutionnels. Et donc, si nous sortons de ce cadre-là, c'est-à-dire que nous allons sous l'arbre, et en allant sous l'arbre, nous sommes dans une approche qu'on appelle le conventionnalisme constitutionnel. C'est-à-dire que nous quittons les textes, nous quittons ce que l'État prévoit dans les textes de la Constitution, nous allons ailleurs, nous négocions, et puis nous venons superposer les conclusions que nous allons avoir sur la Constitution que nous avons. Et c'est là où ils tombent dans leur propre piège. Parce que cela signifie quoi? Celui qui va, d'abord pour convoquer ces dialogues, comment on les exécute? Le problème majeur qu'on veut résoudre, s'il y en a, ce sont des problèmes certainement qui touchent peut-être à la gouvernance, à l'organisation, au fonctionnement, et même là-bas, ceux qui occupent l'Est, ils disent qu'il faut le fédéralisme. Mais comment vous arrivez au fédéralisme sans toucher à la Constitution? Ça peut même embarrasser le chef de l'État. Parce qu'à ce moment-là, nous demandons une chose et son contraire. Mais malgré tout, sa bonne foi, il est d'accord qu'on dialogue. Quitte à savoir comment et dans quel format et avec qui, lui-même, il a donné le ton. Je ne suis pas là, je ne suis pas son porte-parole, mais c'est connu de tous. Donc, si on dit que le dialogue est l'un des mécanismes de trouver la paix, mais on ne veut pas dire qu'on doit remplacer la constitution, les règles qui régissent l'État par le dialogue. Donc, vous allez être dans le foyer en train de vous battre chaque jour parce que vous avez des familles qui vont vous réunir. Non. Je crois que tout en acceptant que le dialogue est l'un des piliers de la démocratie. Nous n'acceptons pas que les gens prennent les armes parce qu'ils savent qu'on doit dialoguer demain et qu'ils vont se retrouver ici, premier ministre et ministre. Non, c'est tout ce que nous festigeons. Parce que nos amis qui ont pris les armes à l'Est, vous dites que ce sont des Congolais selon vous. Moi je conteste parce que Berlin a toujours été exigé par le Rwanda qu'on doit revoir les frontières. Ce n'est pas un secret. Et maintenant, si c'est ça le problème, est-ce qu'il faut autant commettre les crimes qui se commettent là-bas pour aboutir à un dialogue?
Mais comment la majorité peut justifier, Grégoire Mérine dit, le fait que l'FCM23 ait eu le temps et la latitude nécessaire de consolider une administration complète? Ça fait 9 mois quand même que ces gens sont là, que l'FCM23 occupe les chefs-lieux du Nord et Sud Kivu.
Madame, quand vous parlez, il faut peser les mots peut-être, hein, quand vous parlez de consolider, c'est-à-dire que tout est bien assis, tout est bien structuré. Hein? Moi, je ne sais
pas. Ce n'est pas le cas.
Mais, par exemple, prenons le cas de la magistrature. Comment il fonctionne là-bas, là où il n'y a pas de cour d'appel? Comment il fonctionne là où il n'y a pas de parquet généraux? On dit qu'ils vont nommer les magistrats. Sur base de quelle constitution? Jusqu'à preuve du contraire, même les arrêts qu'ils vont rendre, ils vont les rendre au nom de Félix-Antoine Tshisekedi. Félix-Antoine Tshisekedi, ils vont les prononcer au nom du peuple congolais. Parce qu'il n'y a pas un État. Je vous ai dit que nous sommes un seul État. Ce n'est pas si facile qu'on le croit. Et même ils savent que ce n'est pas si facile. Si c'était facile, les examens d'État, ils auraient pu les organiser là-bas. Si c'était facile, ils auraient pu déjà délivrer les passeports là-bas. C'est parce qu'ils savent que ce sont des titres qui sont assis sur non seulement les droits internes, mais sur aussi des conventions internationales. Et donc, ce n'est pas des choses à prendre. Et même, ils savent qu'ils ne peuvent pas se réveiller aujourd'hui.
Mais 9 mois, quand même, c'est beaucoup. Vous avez suivi la réaction de la population. Qu'est-ce qui fait que ces gens qu'on n'arrive pas plutôt à les déloger? C'est la question que beaucoup d'auditeurs se posent.
Madame, je vous dis que ce n'est pas une rébellion, c'est une guerre. Et la guerre a ses techniques. Nous avons affaire à une guerre. Le Rwanda n'est pas seul, il a les puissances derrière. Donc la guerre, on sait comment elle commence, mais on ne sait pas comment elle finit. C'est tout ce, lorsque c'est vous qui êtes attaqué. Il nous attaque, il savait effectivement que non seulement l'armée était infiltrée, mais nous étions aussi sous embargo militaire. Ils savaient tout ça dans leur plan. Mais ils savent aussi que sur le plan international, ils n'ont pas des assises. Ce n'est pas un État. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. Et puis enfin, vous suivez ce qui se passe en Ukraine, madame. Toute l'Europe réfléchit mille et une fois pour s'attaquer à la Russie. Ce sont des puissances. Ils comprennent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'armes, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la force, c'est parce qu'ils savent que la guerre, c'est tuer, c'est détruire, c'est voler. C'est, en fait, ils réfléchissent. Mais vous voyez toutes ces gesticulations autour de l'Ukraine. Vous pensez que l'Europe ne réfléchit pas vraiment comment attaquer la Russie? Et pourquoi ils hésitent? Pourquoi ils hésitent? Pourquoi nous, vous ne nous donnez pas...
Avec le gouvernement congolais.
Mais pourquoi? La guerre, d'abord, c'est... La guerre, ce n'est pas nécessairement l'arme. La guerre aussi, ce sont des stratégies.
Merci.
La guerre, c'est la préparation. La guerre aussi, ce sont des relations. Donc, il faut mettre ça dans un même compartiment.
Merci, Grégoire Mérindi. On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle depuis l'Égypte, je pense. Hein? Oui, l'auditeur est en Égypte. On va l'écouter.
Je suis Jules Maguenet, coordonnateur du Forum des nationalistes. Je vous appelle depuis la capitale égyptienne, Caire. La situation actuelle est d'une gravité extrême, point que les ravive les craintes légitimes de balkanisation du pays. Il est inadmissible qu'un État non fédéral tolère l'existence de deux administrations parallèles sur son territoire. Je pense que ce chaos institutionnel est une insulte à la souveraineté nationale. Le M23 exploitait sans scrupule la mollesse du régime de Félix Tshisekedi, qui semble s'en remettre naïvement aux solutions extérieures, comme si le salut Congo viendrait de l'étranger. Cette posture atteste est non seulement inefficace, mais elle trahit un manque de volonté politique à affronter les crises avec courage et responsabilité. Pire encore, les deux camps engagés dans ces conflits bafouent leur engagement. Et pendant que les élites tergiversent, c'est la population qui paye les prix.
Alors, Alidor Tshibanda, brève réaction, hein. Qu'est-ce que vous pensez de l'avis de cet auditeur qui nous a appelé depuis l'Égypte?
Bon, tout revient sur un seul mot, l'institutionnalisation de l'État et le renforcement de ses capacités militaires pour permettre à l'État de revêtir le monopole de la violence légitime et de faire face à toute éventualité militaire ou civile qui pourrait s'attaquer à ses attributs. Ensuite, comme nous le disons, la souveraineté ne se déclare pas. La souveraineté doit se vivre. Nous sommes souverains, je suis autonome, je suis majeur. Je dois le prouver à la face du monde que je le suis. Le Rwanda se bat pour assurer le bas arrière de sa population et de son, l'intégrité de son territoire. Et qu'est-ce que nous devons faire après plus de 30 ans? Nous reprenons les mêmes recettes et nous pensons aboutir à des résultats différents. Ce n'est pas croyable. Nous devons, comme je venais de le dire, je le reprends encore, mobiliser nos intelligences stratégiques, mobiliser des moyens pour nous doter de capacités qui pourront nous faire respecter, nous faire imposer sur le plan tant national qu'international. Tout le monde appelle au dialogue, c'est une bonne chose. Est-ce que ce dialogue pourra effectivement nous amener à faire définitivement la guerre? La fois passée, j'ai fait voir que nous travaillons beaucoup plus sur la consolidation ou la construction des hommes forts. dans le place des institutions fortes, on ne semble pas me croire. Donc, tout le problème du Congo tourne autour de ça. Réfléchissons sur la nature de notre État. Travaillons pour que notre État soit ce que le monde attend de lui. Franz Fanon n'avait pas tort quand il disait que nous étions une gâchette. Et nous devons le prouver aujourd'hui. J'ai toujours eu peur de croire que le bon Dieu, quand il distribuait tout ce qu'il disposait dans sa jubétière, il avait tout déposé au Congo et que il semble qu'il était distrait. Que toute la richesse a été versée.
On a du mal à vous suivre à l'identité. C'est un problème.
Oui.
On a du mal à vous suivre. Je crois qu'on a un petit souci avec votre connexion. Non, ne reprenez pas. Hein. D'ailleurs, nous sommes presque à la fin de l'émission. Et concluez. Oui. Hein, vous allez profiter pour conclure, Alidor Chibanda.
Je conclue que nous devons travailler sur l'homme congolais et sur un État pour nous ériger en puissance. Sinon, nous allons patauger le cœur du souffle.
Jean-Baptiste Omundo Kasekwa, l'opposition est-elle prête à s'unir pour présenter un front politique commun visant à exiger une intervention peut-être régionale plus musclée?
Nous exigeons que la cohésion nationale soit consolidée à travers un dialogue inclusif. C'est cette cohésion nationale qui va nous permettre, un, de gagner la guerre sur le plan de la mobilisation populaire. Le Rwanda n'occupera jamais indéfiniment notre territoire. Lorsque le peuple est uni, nous l'avons démontré à juin 2004, lorsque Mutebuti et Kunda ont endeuillé Bukavu, les Congolais se sont levés de partout et la communauté internationale a reculé. Aujourd'hui, depuis les hold-up électoraux et les simulacres électoraux de 2023, depuis 2018, l'Union sacrée a détruit la cohésion et il est temps, à travers un dialogue, qu'on reconstruise la cohésion nationale. Deux, il est urgent que l'on trouve une solution. Félix a montré ses limites. Même la simple question de la mise en place de la RAD, depuis 2002 jusqu'à ce jour, posez la question aux Wazalendo. Comment êtes-vous encadré? Comment la rente fonctionne? Donc, il est temps que l'on cesse d'abandonner la destinée de la RDC entre les mains d'un pouvoir qui a manifestement montré ses limites. Enfin, je voudrais prévenir l'M23. L'M23 aujourd'hui impose de retenir 17% sur les frais scolaires à l'école primaire, à l'école secondaire, dans toutes les zones sous occupation. Au même moment qu'elle est en train de détruire systématiquement l'économie de ces populations-là, l'M23 impose des frais sur chaque bulletin d'enfant, 17% sur les frais scolaires. Ça ne va pas passer impuni. Enfin, il est temps que Félix et l'M23 comprennent que nous n'allons pas accepter qu'un des doigts on nous amène n'importe quoi. Nous sommes informés que l'agenda du Rwanda derrière l'M23, c'est de vouloir prendre le contrôle d'une des grandes villes, soit Beni Butembo, soit Kisangani, Uvira, ou aller au Maniema, et alors on est obligé, Félix, d'accepter les schémas de balkanisation des droits. Nous mettons en garde, messieurs Félix et les M23, que nous n'accepterons pas n'importe quel type d'accord. Il est encore urgent qu'on se mette à dialogue, qu'on trouve des solutions consensuelles et qu'on recouvre on rétablisse l'unité
merci
et l'intégrité territoriale
beaucoup,
de notre pays.
Jean-Claude Senghi, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Alidor Tshibanda. La souveraineté ne se proclame pas, elle se prouve tant que le gouvernement de Kinshasa croit que le salut de la RDC vient de l'étranger. On se trompe. Son Charles Mastoro pense que sans un dialogue entre les filles et fils du Congo, vraiment un nouveau pays en gestation ici dans la partie est de la RDC. Grégoire Mirindi, votre conclusion.
Bon, ma conclusion, je voudrais d'abord peut-être dire un mot sur ce que le professeur a dit tout à l'heure, en faisant allusion à la base arrière. Première chose, pour la base arrière pour la protection du Rwanda. Première chose, le Rwanda, il y a eu un moment, l'avion a quitté l'Est vers le Congo central pour des raisons sécuritaires. Ça, c'est connu. Deuxième chose, Umoja Wetu, l'ancien gouvernement de Joseph Kabila, pour les besoins de la sécurité rwandaise, avait accepté la présence des troupes rwandaises à l'ouest, à l'est du pays. Trois, parlant de négociation, du dialogue. Vous savez, s'il y a un dialogue qu'on a eu dans ce pays qui pouvait terminer tout notre procès, c'est la conférence nationale souveraine. Je crois que c'est le plus grand dialogue qui a pris du temps et on a tout dit. Il n'y a rien qu'on va encore inventer. Si on passait même en revue les actes de la conférence, je crois qu'on aurait tout résolu dans ce pays. Enfin, je ne peux pas terminer sans revenir sur la théorie du fonctionnaire de fait auquel à
il
laquelle.
Il faut vous résumer, hein.
Oui, oui. Parce qu'en fait, cette théorie du fonctionnaire de fait qui renvoie aux circonstances exceptionnelles. On peut parler de cette théorie des fonctionnaires de fait, en fait, que si vous êtes sûr que ce sont plus ou moins les rebelles ou des gens des nationaux qui sont sur le territoire. Mais comment vous allez évoquer la théorie des circonstances exceptionnelles lorsque nous sommes dans une hypothèse d'agression? Et l'hypothèse d'agression est régie par le droit international et non par le droit interne. Donc, pour terminer, parce que je vois que le temps presse,
oui.
Je voudrais tout simplement dire à nos auditeurs que nous compatissons à tout ce qui se passe à l'Est. Première chose. De deux, nous sommes très sûrs que ce pays restera indivisible. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps que ça va prendre, le moyen que ça va prendre, ce pays ne sera jamais balkanisé.
Enfin,
je voudrais vous dire que la jeunesse congolaise doit se mettre debout. Les chefs de l'État doivent se mettre à même de les écouter, à même d'écouter tout le monde, pour qu'on mette ensemble une armée républicaine forte, dissuasive et capable, en fait, de faire taire toutes les velléités de tout État ou toute puissance qui pourrait nous agresser pour l'avenir.
Merci Grégoire Mihindi. Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Restez branchés sur la fréquence de la paix.